Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero pour cette édition du journal de Nu Info. Au menu, plus de 855 000 enfants privés d'école par l'instabilité dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. En République démocratique du Congo, 3 500 personnes ont fui les violences dans les hauts plateaux de Fizi. Le changement climatique pourrait rendre les tsunamis encore plus dévastateurs, avertit l'ONU à l'occasion de la Journée mondiale des tsunamis. Et en dossier, nous recevons la lauréate du prix de la policière de l'ONU 2019. Plus de 850 000 enfants ont déserté les écoles dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest au Cameroun. C'est ce qu'avertit ce mardi l'UNICEF depuis Genève. Ce phénomène est lié à une crainte très réelle de la violence qui empêche les parents d'envoyer leurs enfants à l'école et les enseignants et le personnel de se présenter au travail. La non-scolarisation est également liée à une politique des groupes armés non étatiques. Les précisions de Marixi Mercado, porte-parole de l'UNICEF à Genève.
3 années de violence et d'instabilité dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun ont laissé plus de 855 000 enfants non scolarisés, a averti aujourd'hui l'UNICEF. Sans une action urgente et sans un engagement de toutes les parties au conflit à protéger l'éducation sous toutes ses formes, l'avenir de ces enfants est en danger. 2 mois après le début de la nouvelle année scolaire, environ 90% des écoles primaires publiques, soit plus de 4 100 écoles et 77% des écoles secondaires publiques, soit 744 institutions, restent fermées ou non opérationnelles dans ces régions. Les régions camerounaises du nord-ouest et du sud-ouest étaient les endroits où l'éducation était la meilleure dans tout le pays. Mais des groupes armés non étatiques ont mis en place une politique permanente de non-scolarisation. Au cours des 3 dernières années, au moins 70 écoles ont été détruites et des élèves et des enseignants ont été enlevés. Une crainte très réelle de la violence empêche également les parents d'envoyer leurs enfants à l'école et les enseignants et le personnel de se présenter au travail.
Au sud Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, des attaques armées perpétrées contre des villages, suivies d'incendies de maisons, ont occasionné de nouvelles vagues de déplacements de population dans les hauts plateaux de Fizi. Reportage depuis Bukavu avec Emmanuel Elameji de Radio Okapi.
Les violences alimentées par les milices communautaires se font de plus en plus persistantes dans les hauts plateaux de Fizi. Des attaques armées perpétrées contre des villages, suivies d'incendies de maisons, ont occasionné de nouvelles vagues de déplacement des populations à Kivogerwa, Kiloué, Makaina, Kigazura, Mikalati, Kamombo et Gitacha. Ces conflits connaissent une extension vers Bidjombo où plusieurs villages ont été incendiés la semaine dernière du mois d'octobre, poussant les populations à un mouvement de déplacement continuel. Au cours de la semaine dernière, près de 3500 nouveaux déplacés fuyant de nouveaux affrontements dans les hauts plateaux de Fizi ont migré des hauts plateaux d'Itombwe vers les agglomérations de Baraka, Kalundja, Katanga dans la zone littorale du lac Tanganyika. La note d'information humanitaire de Ocha indique que dans le territoire de Kalehe, les autorités locales ont identifié une autre vague de 4000 nouveaux déplacés dans les localités de Luiza, Kanguli et Muhongoza ainsi que sur les îlots de Ishoka et Chofi.
Les Nations Unies célèbrent aujourd'hui la Journée mondiale de sensibilisation au tsunami. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, encourage les gouvernements, les collectivités locales et le secteur du bâtiment à tenir compte des risques de catastrophes naturelles dans leurs activités de développement et à investir dans la résilience. Jérôme Bernard nous en dit plus.
L'élévation du niveau de la mer causée par la crise climatique pourrait rendre les tsunamis encore plus dévastateurs. C'est la mise en garde lancée aujourd'hui par Antonio Guterres. Les risques restent en effet immenses. On estime à 680 millions le nombre de personnes vivant dans les plaines côtières. En 2050, elles pourraient être plus d'un milliard. Cette année marque le 15e anniversaire du tsunami qui a frappé l'océan Indien et causé la mort tragique de 230 000 personnes dans 14 pays. Depuis cette tragédie, les dispositifs d'alerte rapide se sont grandement améliorés à travers le monde, ce qui a permis de sauver de nombreuses vies. Toutefois, les pertes économiques de plus en plus lourdes subies ces 20 dernières années montrent que la prise de conscience n'est pas complète concernant l'importance de mettre les infrastructures critiques à l'abri des catastrophes naturelles. Au cours des 2 dernières décennies, les tsunamis ont représenté près de 10% des pertes économiques dues aux catastrophes. Ces pertes ont retardé les progrès en matière de développement. Pour Antonio Guterres, il est essentiel de protéger les infrastructures afin d'éviter que les principaux services publics ne soient perturbés en raison de tsunamis, de séismes ou de phénomènes météorologiques extrêmes.
L'ONU a remis ce mardi le prix 2019 de la policière des Nations Unies à la Sénégalaise Seynabou Diouf, commandante de la police nationale sénégalaise, actuellement déployée au sein de la MONUSCO, la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo. Seynabou Diouf a été récompensée pour son travail dans la lutte contre l'exploitation et les abus sexuels en RDC. À 60 ans, cet officier chevronné a acquis plus de 33 ans d'expérience dans la police de son pays, mais également dans des opérations de paix au Darfour et au Mali. Au micro de Pascal Sim, Seynabou Diouf est revenu sur son parcours.
J'ai rejoint la police nationale sénégalaise le 15 octobre 1985. Et je vais vous dire, c'était avec un jour de retard. Ils avaient ouvert les classes le 14 octobre, mais avaient oublié qu'il y avait une femme qui avait été recrutée cette année-là. Parce que les années passées, ils n'avaient jamais recruté de policiers dans cet ordre des gardiens de la paix. Pourquoi ? Parce que le corps de la police était ouvert aux officiers, aux inspecteurs et aux commissaires auparavant. Mais ce corps a toujours hermétiquement été réservé aux hommes. Et cette fois-là, j'avais été recrutée. Et c'est le lendemain que quelqu'un a appelé pour dire « Il y a une femme qui est recrutée qui n'est pas encore là. » Et c'est là-bas que j'ai rejoint. Ça me faisait le 15 octobre 1985, un jour après que les hommes aient rejoint.
Quelle a été votre principale motivation à l'époque pour rejoindre la police nationale ?
Je suis d'une famille assez nombreuse, pour l'entendement des autres, mais pour la culture sénégalaise, une famille normale, une famille de plus de 20 enfants. Mon papa est un fonctionnaire qui allait vers la retraite et il était le seul qui soutenait toute la famille. Je voulais être auparavant un médecin. Un docteur, j'ai fait des études jusqu'au bac D, donc qui me menait directement vers ça, et des études brillantes. J'ai eu mon bac avec mention. Donc, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose pour soutenir mon père. Et il fallait trouver quoi faire, puisque je ne pourrais plus être médecin, ce que je voulais être. Je me demandais s'il fallait entrer dans l'administration sénégalaise, ou bien qu'est-ce qu'il fallait faire. Et ayant demandé des informations un peu partout, je voyais que le corps de la police, un corps en uniforme, était ouvert aux femmes. Et j'ai déposé pour concourir pour deux concours, le concours des officiers et le concours des gardiens de la paix. Et j'ai réussi aux gardiens de la paix. Et cela aussi me plaisait beaucoup parce que c'était un corps qui jusque-là n'était ouvert qu'aux hommes. Il fallait quelques années auparavant, d'abord, avoir fait une formation militaire dans l'armée carrément pour être gardien de la paix. La formation était dure et les requirements étaient aussi hauts. On demandait à une femme gardien de la paix d'être au moins 1m65 et un homme 1m80. Donc même physiquement, c'était assez demandant. Et Dieu a fait que cette année-là, nous avons eu presque tous des universitaires, bac plus. Et nous sommes passés et nous avons fait la formation. Et quand il fallait sortir, on est sortis à deux co-majors, dont moi-même et un autre homme. Et depuis lors, je n'ai cessé de vouloir apprendre et de vouloir m'imposer un strict comportement pour pouvoir donner envie aux jeunes femmes de rejoindre la police nationale sénégalaise.
Comment est-ce qu'une gardienne de la paix sénégalaise devient une policière de l'ONU sur une mission de terrain ?
Il faut dire qu'en 2005, pour rejoindre AMIS, c'était un choix sur des profils. Donc j'ai été contactée. Serez-vous intéressée pour rejoindre African Union Mission in Sudan ? J'ai dit oui et j'ai préparé ma candidature. Ils ont vu les candidatures et je suis passée. Nous étions 50 policiers, 49 exactement, à rejoindre le Soudan avec African Union Mission in Sudan. On a fait 1 an, 3 mois, mais je suis revenue en 2010 après un examen passé avec les Nations Unies pour rejoindre les missions des Nations Unies. Et je suis restée de 2010 à 2013 au Darfour où on a fait beaucoup de choses par rapport à l'aide à apporter aux femmes sur le terrain.
Voilà, fin de ce journal de Nu Info à retrouver sur notre page internet et sur nos comptes Twitter, Facebook et SoundCloud. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.